Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent ce séjour au Mexique, dont le cœur fut le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe. Je vous invite à découvrir avec moi ce lieu et les différentes facettes de ce parcours. La croix, elle est collée à notre corps. C'est comme un vêtement qu'on porte. Mais pas pour nous décourager, pas pour nous affaisser, pas pour nous aplatir. La croix, le Seigneur nous demande de la porter pour que le cœur se fortifie. C'est le cœur qui est le centre du corps. C'est le cœur, c'est notre âme. Alors en portant, avec courage et bien proche du cœur, en portant courageusement notre croix, nous fortifions l'être intérieur. C'est l'être intérieur qui est fortifié par la croix qui est portée à la suite de Jésus. Il ne nous est pas dit que Jésus porte sa croix à ce moment-là, pas du tout. Jésus est le serviteur du Père. Jésus est debout, il marche. Si quelqu'un veut me suivre, il ne dit pas « si quelqu'un veut me suivre quand je porte ma croix ». Parce que quand Jésus porte la croix, c'est la croix de l'humanité qu'il va porter, c'est toutes nos croix rassemblées dans la sienne. Non, Jésus n'a pas de croix quand il dit « suivez-moi ». Mais nous, il nous demande de porter notre croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Alors nous avons notre croix. Et comme je le dis, elle est parfois visible ou à l'intérieur, bien cachée. La croix, c'est comme quelque chose qui nous enveloppe, mais sans nous étouffer. Au contraire, si on la porte avec courage, c'est comme une naissance. La croix nous fait naître et renaître sans cesse, dans le don de nous-mêmes, dans l'expérience de sortir de nous-mêmes. C'est ça la naissance. On est poussé à sortir pour vivre. Notre mère nous a poussés hors d'elle pour que nous ayons cette liberté. Un jour, dans les derniers jours, justement, de la vie de ma mère, c'était mon anniversaire. Maman est décédée le 19 octobre. Et mon anniversaire est le 10. Alors, 9 jours avant, c'était mon anniversaire. Alors, elle était dans un hôpital. Et bon, elle était toute contente parce que c'était mon anniversaire. Et là, elle a eu cette phrase. Elle a dit, c'est ça la vie, je t'ai poussé. Jamais j'avais entendu maman parler comme cela. Alors évidemment, lorsqu'on est notre mère, bon, on appelle ça une sorte de délivrance en quelque sorte, mais elle nous pousse dehors, elle nous pousse pour que nous soyons. Alors Jésus, par la croix, permet aussi que nous soyons poussés pour que nous soyons. La croix est liée à l'être et non pas à l'avoir. Alors le Seigneur, oui, nous invite à le suivre. Et il dira même « qui perdra, gagnera ». On est loin du monde, on est loin de l'esprit du monde, qui perd, gagne. C'est pas très encourageant. Quand on voit tout le monde qui sont dans toutes les disciplines et qui veulent gagner, on n'est pas du tout du côté de la perte. Mais plusieurs auront perdu pour finir par gagner. Et ils connaîtront la différence entre l'un et l'autre. Et ils connaîtront la croix. Ils sauront qu'en ayant perdu, ils étaient en train de naître à ce qu'ils allaient gagner. Les carnets du soir se poursuivent avec une lecture en continu du livre « L'impossible », parole énigmatique pour cette nuit noire, dont je suis l'auteur. Ils étaient nombreux à être sortis de leur trou noir pour escorter jusqu'au sommet de la montagne pointue la dame de la montagne. Le curé n'avait pas voulu monter. Il avait fait dire à Petit-Jean qu'il lui enverrait sa touche personnelle par quelqu'un. La décision du curé l'avait déçu. Le curé aurait dû être là. Il faisait nuit. Petit-Jean avait l'impression que tous ces gens comme lui allaient s'engouffrer dans un de ces trous noirs où vont les étoiles qui ne reviennent plus. Son père n'y était pas, lui non plus. Petit-Jean se sentait seul avec ces gens qui attendaient tous que vienne en dehors d'eux le signal du départ. Eux aussi attendaient le curé qui ne viendrait pas. Ce fut donc le charpentier qui ouvrit la marche. À lui seul, robuste comme il l'était, il aurait pu la transporter lui-même jusqu'au sommet de la montagne pointue, sans halte. Petit-Jean ne remarquait personne. Il suivait tout le monde qui suivait ceux qui traînaient le grabat. La montée était donc commencée. Il faisait toujours nuit. Sous le ciel étoilé, on traversa ainsi la clairière. Petit-Jean se rappela le tournoi des archers et sa défaite, puis les bâtons, la gueule des chiens furieux et la gifle au curé. L'ascension fut silencieuse. La nuit, les gens regardent où ils marchent. On eût dit une procession, avec ses flambeaux qui tranchaient le sentier. Ce devait être beau vu d'en bas, de voir grimper ces luminaires dans la nuit. Peu à peu, l'obscurité se transforma. À mesure que la nuit s'estompait, les étoiles s'y engouffraient. Petit-Jean se nourrissait toujours de cette nature aux mille signes. Doucement, l'aurore se présenta comme une large bande bleue à l'horizon. C'était une montée royale. De temps à autre, tout le monde s'arrêtait pour s'imprégner du décor féerique dans lequel il baignait. Plus tard, l'horizon bleu devint une mince ligne rouge, présageant l'enfantement du soleil qui s'apprêtait à bondir. La montagne pointue se dégageait lentement dans cette aurore qui montait. Enfin, ce fut un ciel jaune-or qui apparut, sans toutefois que le soleil ait émergé. Et dans cette lumière toute prête pour l'accueillir, on vit sortir droit devant, tout éblouissant, l'astre d'or. Ils étaient à mi-chemin. Petit-Jean s'illumina. Il eut un éblouissement au-dedans de lui. Tous les repères venaient de se révéler. Les nuits étaient cette montée de l'aurore et du soleil levant. Il redit dans le jour qui naissait, « Nuit noire, morte l'étoile, long horizon bleu, horizon rouge, fil d'or se dessine, du trésor, rapide, l'astre sort. » Elle venait de gravir l'aurore, la dame de la montagne, et de se perdre comme les étoiles dans le jour. Petit-Jean comprit que les trous noirs étaient devenus des puits de lumière. Il se dit en lui-même, « C'est l'agonie des grands. C'est l'agonie des étoiles. » Là-haut, le soleil était étincelant. La faune avait déjà envahi les ruines de la chaumière. Il n'y avait plus de poules. Près d'un grand arbre, on creusa la terre. Petit-Jean restait immobile, tout près de sa dame enrubannée dans la nappe d'autel. On descendit donc le trésor dans la terre. Petit Jean s'éloigna lentement, traversant la foule les yeux baissés. Il pleurait. Il entendit au-dedans de lui la dame de la montagne qui lui dit « Je suis tes yeux ». Puis, les ouvrant dans ses larmes, il vit au loin des gens qui montaient encore. Il aperçut la fillette aux cheveux roux qui tenait la main de sa mère. Il croyait rêver. Il se frotta les yeux. C'est alors que la fillette courut vers lui et remit ce qu'elle avait dans ses mains en lui disant « Il m'a dit de donner le ballon blanc pour la dame. » Petit Jean prit ce ballon blanc qu'il avait remarqué près de la vieille grange, tout près de l'église. Il comprit que c'était la promesse du curé, sa touche personnelle, comme il avait dit. Tenant donc le ballon blanc dans sa main droite, il prit la main de la fillette aux cheveux roux, qui, elle, prit la main de sa mère. Tous trois traversèrent ensemble la foule étonnée en se tenant la main et déposèrent sur la fosse déjà recouverte le ballon blanc sur la terre nue. Ce jour-là, un ballon blanc devenait la signature de celle qui avait sauvé en chacun l'enfant. Petit Jean, pleurant de joie, dit à voix haute « C'est en avant que c'est beau !» Puis, une volée d'oiseaux passa au-dessus de leur tête. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.